partage dans le grand rendez-vous avec Liliane Natcha sur Africa Radio.
Et nous allons parler ce soir des conséquences possibles de l'extinction de la procédure judiciaire contre le général Amadou Ahia Sanogo au Mali dans l'affaire de l'assassinat des 21 bérets rouges. Mais évoquons pour l'instant la mort du président tanzanien John Magufuli avec notre invité.
Décryptage dans le grand rendez-vous avec Liliane Natcha sur Africa Radio.
Ibrahim Akane, bonjour.
Bonjour.
Chargé des relations avec l'Union africaine à Osiwa, initiative pour une société ouverte en Afrique de l'Ouest, le président de la Tanzanie, John Magufuli, est mort à 61 ans. Quel souvenir et que retenez-vous de son mandat à la tête de son pays?
Alors, mon organisation n'a pas encore eu de position par rapport au décès et donc les propos que je vais tenir sont personnels. Pour répondre précisément à votre question, vous savez, Magufuli était un personnage assez extraordinaire. Voilà un monsieur qui a été ministre pendant plusieurs années dans son pays, mais qui, pour une raison ou une autre, s'est retrouvé être le candidat du parti pour remplacer le président Kikwete. Alors, dès le jour où il a pris fonction, a émergé un nouveau personnage. D'abord, un personnage qui se voulait très nationaliste, un peu dans la lignée de feu le président Nyerere, mais aussi un personnage qui voulait montrer qu'il avait pour ambition de transformer son pays, luttant contre la corruption, misant sur les hommes d'affaires nationaux, et donnant...
Luttant aussi, entre autres, contre l'absentéisme chronique au sein de la fonction publique, il se rendait parfois lui-même dans certaines administrations pour demander où se trouvaient les personnes absentes.
En voulant montrer qu'il défendait un État qui est fonctionnel, il a aussi fait beaucoup de choses qui étaient vraiment, qui devaient être le travail des ministres et des fonctionnaires. Et donc, il était devenu, au sein de la population, un monsieur qu'on appelait Monsieur Bulldozer.
Mais ses admirateurs appréciaient et appelaient cela de la proximité.
Oui, mais en même temps, il sortait de son statut de président de la République. Il faisait ombrage à tout le monde, aussi bien aux gouverneurs, aux ministres, aux chefs d'administration. Et donc, bien sûr, le bas-peuple n'avait jamais vu ça. Le bas-peuple confronté à un certain nombre de situations aimait voir quelqu'un qui semblait vouloir vraiment utiliser plus judicieusement les ressources de l'État. Mais en même temps, la population ne comprenait pas que c'est quelqu'un aussi qui désorganisait le système qui était en place et qui désorientait aussi ses propres... administrés, surtout les fonctionnaires. Plus fondamentalement, je crois, Magufuli a été celui qui voulait se mesurer à Nyerere. Or, il n'en avait pas la formation politique, il n'en avait pas aussi le parcours du panafricanisme qu'était Nyerere. Et troisièmement, Magufuli était un personnage qui ne comprenait pas aussi beaucoup de problèmes de la région. Pour vous donner un exemple, Magufuli n'a jamais eu d'intérêt pour la communauté économique régionale de l'Afrique de l'Est.
Vous semblez dire que c'était un populiste nationaliste qui concentrait davantage sa politique sur le développement de son pays.
Tout à fait. Mais ça,
et en quoi, dans ce cas-là, cela est un problème s'il défendait autant les intérêts de ses concitoyens et défendait son pays d'abord?
Oui, mais il le faisait non seulement maladroitement, mais au fond, quand on regarde maintenant avec le recul, il n'a pas permis à l'économie tanzanienne de se développer. Il n'a pas permis... Pourtant, la Tanzanie est un des pays qui a du gaz, qui a un peu de pétrole, qui avait... un tourisme extraordinaire, florissant, tout cela n'a pas permis au pays de progresser parce que Magufuli a aussi réussi une chose, c'est à faire fuir les Tanzaniens, leur pays. Une bonne partie de l'intelligentsia tanzanienne a dû quitter le pays.
Poussée à l'exil.
Exactement. Les dernières élections ont été quelque chose d'extraordinaire dans le pays. Le leader de l'opposition, qui était en exil, a été obligé de rentrer au pays simplement pour les élections et ensuite repartir. Ça vous donne une idée de la démocratie qui existait dans ce pays. La plupart des organisations de la société civile qui voulaient faire le monitoring des élections n'ont pas pu le faire.
Mais certains de ses compatriotes et même ses détracteurs s'accordent à dire qu'il a contribué au développement de son pays et il a aussi pu réussir à réduire le train de vie de l'État.
Les aspects sur lesquels les gens ont beaucoup brodé, ce sont des aspects de bonne gestion de certaines administrations. Il est aussi reconnu mondialement que la Tanzanie est l'un des rares pays où même les fonctionnaires ou les sociétés, les entreprises ne payaient pas leurs impôts. Donc, ce que Magufuli a fait, c'était simplement de rappeler aux administrations, de rappeler aux sociétés privées qu'ils devaient payer leurs impôts. C'était tout. Mais lui, il en a donné un aspect très folklorique.
Ibrahima Kane, merci beaucoup.
Merci.
Chargé des relations avec l'Union africaine à Osiwa, l'initiative pour une société ouverte en Afrique de l'Ouest.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
Et nous parlons ce soir des conséquences possibles de l'extension de la procédure judiciaire contre le général Amadou Ayua Sanogo au Mali dans l'affaire de l'assassinat des 21 bérets rouges avec nos quatre invités qui sont tous en ligne du Mali. Ismaël Fané, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Vous êtes porte-parole du collectif des victimes des 21 bérets rouges, donc vous êtes en ligne de Bamako au Mali. Maître Ben Mamaté Touré, vous êtes également au Mali. Bonsoir, Maître Touré.
Bonsoir, madame. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir.
Avocat au barreau du Mali. Ibrahim Koulibaly, directeur de publication de la Nouvelle Tribune à Bamako. Monsieur Koulibaly, bonsoir.
Bonsoir.
Et nous sommes également heureux d'accueillir Moriba Sissoko, qui est à Kati. Monsieur Sissoko, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Vous êtes juriste, point focal au Centre d'assistance pour la promotion des droits de l'homme. Je vais peut-être commencer par le maître Ben Touré, qui est avocat. Des journalistes maliens et d'autres maliens aussi avec lesquels nous avons discuté ont affirmé que la décision de la cour d'assises a créé une sorte de malaise au Mali. La société civile comme la classe politique ne se sont pas vraiment empressés pour commenter cette décision. Est-ce que vous avez fait le même constat?
Oui, effectivement, madame. Merci beaucoup pour cette question. Je pense que il est normal qu'une décision de cette envergure face à des faits d'une certaine gravité suscite l'émotion et ça amène beaucoup de questions et de débats. Cela est tout à fait normal parce que nous sommes dans une dynamique non seulement nationale de lutte contre l'impunité, mais également une dynamique sous-régionale et internationale qui fait que cette lutte a du mal à aboutir. Et donc chaque fois qu'on assiste à des procès, en tout cas, où une loi parvient à exonérer des personnes de certaines charges, que cela suscite de l'émotion, cela est tout à fait normal. Mais de l'autre côté, ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes en matière de justice. Et qui parle de justice parle également de loi en vigueur. Et l'office des juges, c'est d'obéir simplement à la loi. Dans le cas d'espèce, il y avait une loi d'entente nationale qui est par nature une loi d'amnistie, donc une loi qui prévoit deux choses, non seulement l'exonération des poursuites entamées, mais des poursuites existantes, mais déjà celles qui ont été initiées également. Donc au bénéfice de cette loi d'entente nationale, les poursuites ont pris fin et l'action publique a été déclarée éteinte. C'est une décision de justice comme telle, elle suscite des débats. Mais ce qui est certain, la procédure en tout cas a pris fin suite à cette décision de la Cour d'assises.
Merci Maître Touré. Monsieur Sissoko, comment cette décision a été perçue de Kati où vous êtes? Est-ce que vous aussi vous avez senti ce malaise?
Oui, bon, en fait, il faut reconnaître que toute décision de justice la rend quand même certains frustrés et d'autres contents. Ça, c'est la nature même de la chose qui fait comme ça. Et là, mais ce que nous devons comprendre dans cette histoire, Kati est considérée comme la cité consensuelle des droits humains. Donc, sous cet angle-là, moi, je ne peux que dire tout simplement que aux yeux des associations de droits de défense, des droits humains surtout, en tout cas, cette décision-là a été perçue comme une très mauvaise décision de justice. Et je dirais même que surtout, ça a été une résolution politique et non une décision de justice en tant que telle, parce qu'en réalité, la justice n'a pas été rendue, mais ça a été géré politiquement.
Mais Maître Touré vient de parler de cette loi d'entente nationale dont il fallait tenir compte et sur laquelle s'est appuyée la Cour. Vous pensez qu'elle...
Justement, madame, vous savez, le fondement d'abord de cette loi d'entente nationale vient en tout cas de la conférence d'entente nationale qui s'est tenue à Bamako du 27 mars au 2 avril 2017. Vous savez, c'est ça qui a abouti quand même au déclenchement ou encore à la demande de cette loi qui a été quand même adoptée par l'Assemblée nationale le 27 juin 2019 et promulguée par le président de la République le 24 juillet 2019. Donc, c'est politique. Je n'acquise pas la justice en tant que telle, mais j'acquise tout simplement le législateur. Et qui accuse le législateur, accuse non seulement le peuple aussi, parce qu'ils sont l'émanation du peuple.
Merci.
Donc, du coup, c'est un peu la question, quoi. La justice, les lois sont faites pour être rendues, pour être appliquées du moins, mais aussi une décision comme ça, ou encore une loi comme ça, dans l'agencement juridique, moi, je pense que aux yeux quand même des associations de droits de l'homme, vraiment de défense des droits de l'homme, vraiment
cette décision ne passe pas.
Ça ne tient pas autant.
Cher confrère Ibrahim Koulibaly, vous aussi vous parlez de décision politique, ou alors vous comprenez que la cour d'assises ait décidé de se fonder sur cette loi pour annoncer sa décision sur cette affaire?
Oui, madame, moi je pense que cette décision doit être comprise sous l'angle politique, hein, parce que en réalité, c'est vrai que les juges n'ont fait qu'appliquer la loi, parce que la loi d'entente dans son article 3 parle de l'abandon de certaines poursuites commises en tout cas dans le courant 2012 et beaucoup d'autres événements. Donc c'est une décision politique parce que...
Mais d'autres répliquent que les faits pour lesquels le capitaine Sanogo et ses 15 co-accusé était jugé, comptait pas parmi les décisions pouvant justifier ce qu'a fait la cour d'assises.
Oui, madame, mais c'est long parce que les décisions de justice sont toujours sujettes à des interprétations. Donc c'est long. Moi, je pense que le gouvernement a pris ça pour éviter une série de procès dont il n'aura jamais les moyens et dont il n'aura jamais pu contrôler. Parce que juger Amadou Sanogo, ça allait amener quoi? Les Béréo Rouges aussi, les survivants des Béréo Rouges, ceux qui sont à l'origine de l'attaque des Béréo Rouges aussi devraient être jugés. Et après ça...
Donc il y avait un risque d'implosion au sein de l'armée, peut-être?
Oui, peut-être, ce n'est pas à exclure. Mais on allait juger non seulement Sanogo, il fallait le juger. Après le jugement de Sanogo, les Béréo Rouges aussi, les rescapés, les cerveaux, il fallait aussi les juger à leur tour. Après ça, les responsables de la CEMA, aujourd'hui, qui ont signé un accord, qui sont partie intégrante du gouvernement, les responsables de la CEMA et beaucoup d'autres acteurs, il fallait les juger. Donc, ça allait nous amener dans une série de jugements
Merci beaucoup.
Être longs, très coûteux et qui allaient créer d'autres problèmes. Moi, je pense que la décision est purement politique. C'est vrai que les juges se sont appuyés sur une décision politique parce que la loi d'entente, elle est politique. Donc, ça n'a rien de juridique. Est politique. De cette loi d'entente et ça permet d'éviter en tout cas une série de problèmes, mais en fait en même temps ça encourage un peu l'impunité, il faut se le dire, parce que désormais n'importe qui peut faire des trucs.
Ibrahim, permettez qu'on fasse un tour de table, on va revenir à vous tout à l'heure. Monsieur Fanet, vous m'entendez?
Oui.
Est-ce que vous comprenez les arguments avancés ici par les uns et les autres sur le fait que oui, c'est une décision politique qu'il fallait prendre pour ne pas se retrouver dans une situation peut-être où on aurait ouvert une boîte de Pandore?
Oui, en réalité, c'est une décision politique parce que si vous regardez la loi d'entente nationale, l'article 3, L'article 3 dit que les dispositions de la présente loi s'appliquent pour pouvoir être qualifiées crime ou délit prévu et puni par le code pénal malien. Donc, les autres lois pénales, conventions et textes internationaux ratifiés par les Maliens en matière de protection et de promotion des droits de l'homme, survenus dans le cadre des événements liés à la crise liée en 2012, et qui grave porte atteint à l'unité nationale, l'intégrité territoriale et la cohésion sociale. Donc, en tant que victime, j'aurais préféré que le procès aille à son bout, que les droits des victimes à une réparation intégrale soient respectés.
Vous parliez d'une condamnation même symbolique, mais en même temps, on peut se demander si vous souhaitiez que la vérité soit connue. Pourquoi avez-vous accepté cet arrangement avec l'État malien?
Non, le problème est que parce que lorsque tu prends tes frères d'armes, creusant un trou pour ensuite les retirer en vous portant par les rafales, cette loi doit être abrogée. Franchement, ça me plaisait qu'il y ait des condamnations dans ce dossier pour punir les coupables. Parce que Foussène Diarra Diouf, qui fait partie des accusés, reconnaissait lors de son audition avoir fait des rafales sur les 27 brûlés rouges assassinés. Il l'a dit lors de son audition.
Oui, monsieur Fanet, je crois que le débat ne se posait pas au niveau des preuves indiquant ou non la culpabilité des personnes poursuivies, mais... le débat aujourd'hui, c'est que malgré ce qu'on sait, il n'y a pas de poursuite, il n'y a pas de condamné. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Mais vous, au moment de discuter avec les autorités de cet arrangement, est-ce que vous ne pensez pas que une fois que vous l'avez fait, vous avez en quelque sorte contribué à ce que on assiste à cette issue aujourd'hui?
Non, vu les pressions. Comment dirais-je, dans les sociétés civiles, les religieux, tout le monde est venu. Au moins, c'est pour qu'on puisse avoir un accord en amiable.
C'est-à-dire la société civile et les religions ont mis la pression sur vous, le collectif des victimes, pour accepter cet arrangement?
Donc, tout le monde. Mais bien sûr, pour qu'on puisse au moins c'est un accord à l'amiable. On a décidé entre les deux parties ce qu'on appelle le protocole d'accord. Donc, signé par l'ancien premier ministre, Dr Boubou Cissé, et nos avocats. Donc, dans le protocole d'accord, on parlait d'indemnisation financière, de logements sociaux et intégration dans la fonction publique pour nos enfants. Donc, on n'a pas le choix, parce que nous sommes au Mali. Donc, c'est pas du tout facile de refuser avec, comment dire, des guides religieuses, les sociétés civiles. Donc, c'est pas du tout facile. Vous voyez, donc, pendant 7 ans, on est en train de chercher ce procès. On voulait que ce procès aille jusqu'au bout.
Merci.
Donc, maintenant, que faire?
Merci beaucoup. On va, messieurs, marquer une toute petite pause. On va revenir avec vous tout à l'heure pour évoquer peut-être le contexte même du vote de cette loi d'entente nationale, dont l'application aujourd'hui, ou bien dont l'usage aujourd'hui par la Cour d'assises pour abandonner les poursuites contre le général Sanogo, fait débat.
Africa, le grand rendez-vous. Avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et l'extinction de la procédure judiciaire dans l'affaire de l'assassinat des 21 bérets rouges décidé par la cour d'assises de Bamako fait débat et nous en parlons ce soir avec 4 invités. Moriba Sissoko, juriste, point focal au centre d'assistance pour la promotion des droits de l'homme à Kati. Ibrahim Koulibaly, journaliste, analyste et directeur de publication de la Nouvelle Tribune à Bamako. Ismaël Fane, porte-parole du collectif des victimes des 21 bérets rouges. Il est également à Bamako, de même que Maître Ben Mamaté Touré, avocat. Maître Touré, on a entendu M. Fanet dire qu'il y a eu des pressions politiques pour les pousser à accepter cet accord. Finalement, on a l'impression que les autorités maliennes n'avaient pas intérêt ou en tout cas ne souhaitaient pas que ce procès aille jusqu'au bout.
Merci beaucoup. Moi, je pense que les données contextuelles sont très importantes dans l'analyse de cette situation. Le Mali est un pays post-conflit. Et vous savez, dans ces genres de pays, la question de loi d'entente nationale intervient. L'Algérie est passée par là. D'autres pays également sont passés par là. Donc, qu'on parle de politique, moi, j'aimerais bien, mais qu'on fasse attention à la connotation qu'on veut bien donner à la notion de politique. Parce que de manière classique, quand on parle de politique, on pense au jeu politicien classique dans le jeu des partis.
Des arrangements.
Mais là, on est dans le cadre, d'une politique d'entente nationale de réconciliation pour permettre au pays de sortir de certaines difficultés. Il y a l'un des intervenants qui a évoqué avec beaucoup de pertinence les implications de cette affaire à deux versants, tantôt béret rouge passible de poursuite, tantôt les bérets verts, et les groupes armés également dont le bénéfice de la loi maintenant pourra leur être accordé. Donc il faut se dire simplement que c'est une politique, mais une politique de réconciliation, une politique d'entente nationale.
Bon, mais vous le dites, maître, mais on voit bien qu'au niveau des familles des victimes, par exemple, et des organisations des droits de l'homme, on vient d'entendre M. Sissoko, ça ne passe pas. Il continue peut-être de croire que réconciliation, oui, mais peut-être il fallait d'abord passer par la justice et ensuite amnistier les personnes condamnées.
Oui, mais moi, je vous dis simplement que parler de pression dans cette situation, moi, je suis assez surpris parce que les familles des victimes sont assistées par des avocats et des organisations des droits humains. Donc, il n'y a pas que les avocats, il y a beaucoup d'organisations des droits de l'homme qui ont prêté secours et main forte aux familles des victimes. Le protocole qui est intervenu a été signé, à ma connaissance, par les conseils des parties civiles et je n'y vois aucune forme de violence quelconque. Donc, on peut se dire simplement qu'il y a eu des intermédiations, il y a eu des appels à la raison, au cœur, au pardon pour qu'on arrive à cela. Peut-être l'usage des mots peut amener à dire qu'il y a eu des pressions, je ne le sais pas. Mais ce que moi je sais, c'est que nous avons eu un protocole parce qu'il n'y a pas que la loi d'entente nationale. La loi d'entente nationale est le socle, mais c'est le protocole d'indemnisation qui a été signé par les avocats, les conseils des familles des victimes maintenant, qui a permis au juge de constater que les faits poursuivis rentrent dans le cadre de la loi et l'indemnisation telle que prévue a été accordée aux familles des victimes. Donc moi, je ne pense pas sincèrement qu'il y ait eu des pressions, mais si le représentant des victimes le dit, on en prend acte.
Merci.
Mais ce qui est certain, nous n'avons pas vu de pression. Je ne vois pas un avocat signer un protocole sous pression.
Merci beaucoup, Maître Touré. En tout cas, on le comprend. Je ne l'ai peut-être pas précisé en début d'émission. Vous êtes l'un des avocats du général Aya Sanogo, donc on peut peut-être comprendre votre position. Ibrahim, vous êtes là? Allô, Ibrahim
Koulibaly? Oui, je suis là.
Voilà.
Oui.
Mais cette décision a été donc prise par la cour d'assises. Quel signal est-ce que cela envoie au niveau peut-être de la classe politique et même de la justice malienne? Et je parle d'abord de la classe politique parce qu'on sait qu'en ce moment, c'est une transition militaire qui est à la tête du Mali.
Oui, ça peut se comprendre comme si effectivement la junte actuellement au pouvoir avait mis une main derrière, en tout cas pour forcer cette décision. Mais pour ceux qui suivent ce dossier depuis un certain temps, parce que le procès de la première ouverture du procès à Sikasso, cette loi n'était pas encore en vigueur. Donc moi je pense que d'un point de vue politique, ça amène une certaine stabilité malgré les contestations des parents des Bérets Rouges. Mais d'un point de vue politique, ça amène, on a dit, nous sommes dans un processus de réconciliation. Vu sous cet angle, cette loi, malgré en tout cas le fait que les gens se plaignent, moi je trouve que c'est une très bonne chose parce que ça participe à l'apaisement du climat social.
Mais
parce
on voit qu'il n'est pas apaisé puisqu'il y a M. Fané de porte-parole qui accuse,
si
qui dénonce la pression. Il semble bien que les familles des victimes ne soient pas tout à fait d'accord et n'ont pas digéré la façon dont ce procès s'est achevé. Comment peut-on parler de réconciliation dans ces conditions où il y a des cœurs encore meurtris?
Oui, sur ce plan, on comprend l'amertume de certaines, mais on n'a vu aucun manifeste, on n'a vu aucun écrit, aucune dénonciation forte, parce que motivé pour dire qu'on n'est pas d'accord. La preuve en est qu'ils ont signé et ils vont avoir des indemnités. Donc, s'ils n'étaient pas d'accord, il ne fallait pas signer et il fallait renoncer aux indemnités. Donc, maintenant, comparaison n'est pas raison, mais la grogne des parents des Bérets Rouges comparée, en tout cas, à la boîte à Pandore que ce procès allait donner. Moi, je pense que l'un dans l'autre, il faut savoir faire la part des choses. Deuxièmement, sur un plan politique toujours, ça peut donner l'idée d'une certaine impunité. Peut-être qu'on pouvait faire un procès, condamner les gens avec sursis pendant un certain nombre d'années pour qu'ils ne soient plus jamais impliqués dans de telles pratiques. Ça aussi, c'était une manière. Mais on a voulu vraiment, d'un seul coup,
mettre fin à ça pour éviter un certain nombre de choses.
Merci.
Parce que, comme je l'ai dit, ok, merci.
Oui, pardon. Monsieur Sissoko, si on avait procédé, comme vient de le dire Ibrahim Koulibaly, par exemple, est-ce que pour vous, au niveau de la société civile, vous auriez été beaucoup moins sévère à l'endroit de cette décision? Vous l'auriez comprise, en tout cas. Est-ce que vous l'auriez comprise, cette décision?
Oui, bon. En fait, permettez-moi d'abord de revenir un peu sur l'article 25 de la dite loi, et qui stipule en son sein toute personne condamnée définitivement pour avoir commis ou avoir été complice d'un ou plusieurs des faits visés à l'article 3 de la présente loi bénéficie de la grâce conformément aux dispositions prévues par la Constitution. À cet état, moi je pense qu'il fallait tout d'abord rendre la justice. Une fois la justice rendue, maintenant le président dans ses prérogatives peut revenir sur la chose pour quand même prendre l'article 25, les dispositions de l'article 25 en graciant un peu les condamnés. C'était ça un peu la satisfaction de la chose. Aujourd'hui, tu indemnises quelqu'un, une victime par rapport à cette situation. Même si tu donnes des milliards ne peut pas remplacer la personne en question. Alors, ce que nous, on attendait, on avait la soif de la justice. On avait quoi? On attendait ce grand rendez-vous encore, cette attente. Il y avait une grande attente qui est devenue une grande déception. Donc, aux yeux quand même des associations de la défense des droits de l'homme, on voulait vraiment que ce jugement ait. Et du coup, après ça, maintenant, s'il y a lieu vraiment de faire quoi que ce soit en matière politique ou autre là, ben, c'était permis. Sinon, même Maître, j'ai beaucoup de respect envers lui, mais lui-même, il sait très bien que ça a été beaucoup plus simpliste pour les avocats, en tout cas, de prendre l'exception sur la loi d'entente.
Merci.
Et du coup, ils ont fait combien de temps pour faire des mémoires de défense? Et à la dernière minute seulement, ils ont soulevé l'exception sur la loi d'entente nationale.
Merci.
Donc moi, je crois que c'est trop simpliste. Et cette loi, vraiment, aux yeux quand même des victimes et autres, là, moi, je pense que ça ne tient pas autant.
Monsieur Fanet, est-ce que vous pouvez répondre très brièvement à l'observation, ou bien je dirais même aux observations faites à la fois par Maître Touré, un des avocats du général Sanogo, et Ibrahim Koulibaly, notre confrère, qui estime que si vous n'étiez pas d'accord, vous n'aviez donc pas signé. Est-ce que vous avez une réponse?
Oui, mais vous savez, au Mali, le côté social, on ne néglige pas ça, surtout les guides religieux. Donc, ce n'est pas du tout facile parce que pendant 7 ans, on attendait ce procès. Pendant 7 ans. Donc, il y a 2 personnes parmi nous qui sont déjà décédées. Des vieilles personnes. Donc.
Vous vous êtes dit, il ne faut pas attendre davantage. On pourrait avoir d'autres morts. Donc, autant accepter l'argent tout de suite.
Mais, oui, mais que faire? Parce que vu que quand je tiens à Sigasso, ils ont reporté le procès plusieurs fois. Donc maintenant, on a
le procès s'enlise quand même.
Les portes partout. Maintenant, jusqu'à présent, donc, comment dirais-je là, ça fait 7 ans qu'on attendait ce procès.
Merci.
Vous voyez? Donc maintenant, quand au Mali, on essaie de nous parler de comment dirais-je là, pardonner Amadou Aya Sanogo et ses co-accusés, fait du bon Dieu, donc même si on fait le procès, les enfants n'ont pas à revenir et tout. Donc c'est pas du tout facile. Pas du tout facile.
Merci,
donc,
M. Fanny.
Finalement, la présidente de 21 Bureau Rouge, donc, elle a décidé enfin de coopérer avec l'ancien régime donc, pour qu'on puisse indemniser les victimes. Donc, on a donné, comment dirais-je, les logements sociaux, quelques sommes d'argent et puis intégration dans la fonction publique de l'aide.
Et prise en charge des orphelins, entre autres. Merci, M. Sané. M. Touré,
oui.
Malgré tout, est-ce que vous comprenez que certains parlent de l'impunité, de consécration de l'impunité?
C'est à moi la question.
Oui, Maître Touré, oui, Maître Touré.
Bon, moi, je ne pense pas que ce soit la consécration de l'impunité, parce que dans le système judiciaire, en tout cas des pays d'inspiration francophone, les amnisties existent même avant cette affaire-là. Avant ce genre de procès, les amnisties existent. Les autres, il y a d'autres formes alternatives de peine qui existent et qui sont là, qui peuvent être appliquées. Mais nous sommes dans un mode de pensée où nous avons l'impression que la seule sanction qui vaille, c'est l'emprisonnement et l'enfermement. Mais l'enfermement et l'emprisonnement, ce ne sont pas les seules sanctions. Donc l'amnistie existe.
Et au gré de la réconciliation nationale, moi, je pense que nous avons décidé
mais par les au-delà, au-delà, oui, oui, maître, mais il y a aussi le fait que ce sont les bérets rouges qui, dans cette affaire, c'est ce que soulignent d'autres Maliens, étaient quand même dans la légalité parce que les bérets rouges essayaient de faire un contre-putsch contre le capitaine à l'époque Sanogo qui venait de renverser le président légal. Donc, finalement, quand la situation se solde, le procès se solde ainsi, c'est comme si on a dit, cette affaire, finalement, les morts qui étaient dans la légalité, c'est-à-dire les bérets rouges, passent par perte et profit.
Oui, mais moi, je pense qu'il faudrait faire énormément attention à ne pas... Le diable étant dans les détails, et qu'il y a eu beaucoup de morts et de personnes qui ont perdu la vie dans cette affaire, il faut parler avec beaucoup de tact et de mesure. Je ne suis pas à l'aise en tant qu'avocat pour aborder ces questions, surtout quand on est en face de parents de victimes. Je sais ce que ça fait, je sais la douleur qu'ils endurent. Mais ce que je peux dire simplement, c'est que les bérets rouges également ne sont pas venus la fleur au fusil. Donc ils étaient venus vraiment dans une posture de combat. Et malheureusement, le
combat... Mais combattre ceux qui avaient renversé un pouvoir légal, un président légitime.
Oui, effectivement, mais ce qui est certain, c'est que, en tout cas, il n'y avait pas de chaîne de commandement en tant que telle. De bien dessiner, il n'y avait pas de gouvernement légal, il n'y avait pas de président légal. Nous étions donc dans une phase de non maintenant, l'armée était divisée. Parce que les personnes qui sont venues, qui ont été également attaquées, sont des membres de l'armée régulière, au même titre que les bérets rouges. Donc des deux côtés, moi je vous dis, la justice est saisie de deux dossiers. Les bérets rouges qui sont venus attaquer également ont eu à tuer des personnes. Cette poursuite est en cours également. Elle va venir dans les jours à venir au niveau des assises. Les bérets verts qui ont tué les bérets rouges, ça c'est leur procès à eux. Donc c'est vous dire que la question de la légalité de la défense républicaine a été tranchée par la double procédure qui pour moi signifie que les deux camps ont commis des exactions les uns sur les autres.
Merci M. Touré. Monsieur Koulibaly, aussi, quelles peuvent être les conséquences politiques de cette affaire? Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, je le disais, c'est un pouvoir de transition. Si demain, on leur reprochait aussi des actes répréhensibles, pourquoi ne bénéficieraient-ils pas aussi de cette même loi?
Bon, ce n'est pas exclure, hein, parce que la loi, dans son article 4, je crois, énumère un certain nombre de crimes qui ne seront pas, qui sont pas pris, qui sont pas couverts par la loi d'entente nationale. Donc, à part ça, moi, je pense que finalement, ça risque d'être un blanchiment de beaucoup d'autres crimes et beaucoup d'autres délits commis, en tout cas.
Et c'est ce que craint la société civile, que finalement, ça devienne une loi qui fasse oublier, qui enterre des crimes et qui permette aux gens de continuer à les commettre sans être inquiets.
Ouais, parce que c'est une brèche ouverte dans laquelle on peut s'engouffrer très facilement avec des arguments de droit. Et en tant que tel, ajouter à cela, en tout cas, l'esprit de réconciliation, moi, je pense que nous devons faire extrêmement attention pour ne pas, en tout cas, encourager l'impunité dans ce pays-là. Moi, je pense que c'est une loi. On vient d'avoir la première grande interprétation. Donc, il faut voir au fur et à mesure vraiment ce qu'il y a à corriger et à améliorer dans cette loi pour que ça ne soit pas, comme je l'ai dit, une façon de blanchir tous les criminels.
Merci beaucoup, Ibrahim Koulibaly. Nous allons encore nous arrêter un moment et puis on reviendra pour conclure ce débat sur le Mali.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et on débat ce soir la décision de la justice malienne d'abandonner toutes les poursuites contre le général Sanogo et ses co-accusés dans l'affaire de l'assassinat des 21 bérets rouges en 2012 avec nos invités, Maître Ben Mamaté Touré, un des avocats du général Sanogo, Ibrahim Koulibaly, directeur de publication de la Nouvelle Tribune, Moriba Sissoko, juriste, point focal au Centre d'assistance pour la promotion des droits de l'homme, il est à Kati, et enfin Ismaël Fané, porte-parole du collectif des victimes des 21 un béret rouge à Bamako, à qui je vais d'ailleurs donner la parole, Monsieur Fané. On a, c'est vrai, brièvement évoqué tout à l'heure le contexte dans lequel la loi sur l'entente nationale a été examinée ou évoquée en 2017, puis adoptée en 2019. Mais est-ce que vous, à votre niveau, vous pensez qu'on peut parler de réconciliation sans justice, puisque vous dites que pour vous, il n'y a pas eu justice?
Bien sûr, sans la justice, il n'y aura pas de paix. Je vais revenir un peu au propos de Maître Touré concernant les 21 drapeaux rouges. En réalité, nos parents n'étaient pas au terrain du combat. Ils étaient tous enlevés chez eux à la maison. Donc, comment peut-on enlever quelqu'un chez lui, montrer à la télé comme quoi c'est un mercenaire après le tuer? Donc, on ne peut pas parler la paix sans la justice. Cette loi d'attente nationale risquerait vraiment de poser d'autres problèmes au Mali dans les jours à venir.
Quel genre de problème?
Ouais, l'impunité. Mais ça, c'est clair. Le Mali n'a pas besoin d'une telle impunité qui marque vraiment un recul profond en matière de respect et de protection des droits de l'homme. Donc ça, c'est clair. Il faut obligatoirement la justice, même si après on va amnistier Sanogo et Sako accusés, mais il faudra que le procès aille jusqu'au
mais
bout.
Mais M. Fané, aujourd'hui, c'est presque clair qu'au niveau du Mali, il n'y a plus rien à faire. Est-ce que vous envisageriez peut-être de saisir la justice internationale? Est-ce que...
Bon, pour le moment, je ne pense pas, parce qu'on a déjà signé un protocole d'accord entre les deux parties. Donc, je pense que ça, quand même, c'est fini. Ça, quand même, c'est fini. Mais mon inquiétude, comme nous sommes dans une autre transition, donc, tout peut arriver.
Donc, ça peut donner des idées à l'actuel pouvoir de transition des militaires.
Mais bien sûr. Bien sûr, ça me fait peur, parce que vu la crise de 2012, c'était une autre transition. Et actuellement, nous sommes dans la transition, c'est les militaires qui nous gouvernent ici. Donc ça fait peur,
merci.
En réalité.
Merci beaucoup. Monsieur Sissoko, vous avez les mêmes craintes? On voit que les plaies ne sont pas refermées, elles sont encore ouvertes.
Cicatrisées surtout, les plaies ne sont pas cicatrisées, ça il faut le dire.
Tout à fait, c'est le bon mot, vous avez raison.
Ce qui est déjà à craindre, c'est que est-ce que s'il faut encourager l'impunité ou encore faire la promotion de l'impunité, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut avoir peur de ce qui est un crime ou de ce qui est un délit? Donc ça, je vous dis que c'est trop simpliste. C'est trop simpliste cette loi, parce que s'il faut tout le temps se rabattre sur la loi, pour en tout cas la loi d'entente nationale, pour corriger en tout cas les crimes commis, bon, je pense que il y a de quoi à craindre. Dans les jours à venir, il y a de quoi à craindre, en tout cas même dans les années à venir.
Merci.
Ça, c'est une réalité.
Ibrahim, à votre niveau, qu'est-ce qu'il faut faire pour que, finalement, cette décision d'extinction de la procédure ne crée plus de problèmes, alors qu'il était censé permettre la réconciliation et la paix?
Moi, je pense que du moment qu'il y a un accord, moi, je pense qu'il faut continuer à entretenir cet accord-là, pour que les deux parties puissent continuer à faire profil bas et à consolider cet accord.
Comment? Puisque les autres parties disent que on nous a mis la pression, on aurait voulu qu'il y ait au moins la justice avant la réconciliation, même de façon symbolique. Et en même temps, il y a des militaires au pouvoir aujourd'hui. Ces victimes, et on vient d'entendre M. Sissoko, craignent que, voilà, finalement, ce soit une porte ouverte à tout. Comment faire aujourd'hui que les deux positions s'entendent?
Oui, l'inquiétude est là, mais moi je pense que les deux parties s'entendent déjà, comme on l'a dit, et même ils ont signé un accord. Donc il faut que chacun respecte en tout cas ce qu'il a signé. Donc c'est vrai que ça ne peut pas absoudre tout ce qui a été fait, mais les gens doivent comprendre qu'à un moment donné, chaque processus doit avoir une fin. Donc ce processus de Sanogo, pour moi, les Bérets Rouges et leurs parents ont compati à leur douleur, mais finalement, moi je pense que il faut l'accepter ainsi. Maintenant, la crainte, c'est quoi? Il ne faut pas que cette loi en l'état continue d'être un refuge ou en tout cas une espèce de blanchiment pour tous les criminels. Donc ça, quand même, comme je l'ai dit, c'est sa première grande interprétation. Avec le temps, il faut que les Maliens même voient comment appliquer cette loi et définir clairement quels sont les cas qui rentrent dans le cadre de cette loi-là.
D'accord, mais est-ce que la justice applique aussi, comme vous l'avez dit, de façon, je ne dirais pas aveugle, cette loi sur l'entente nationale? Est-ce qu'elle ne se discrédite pas un tout petit peu aussi?
Bon, moi, je pense que, comme on le dit, la loi, c'est la loi, elle est dure, mais peut-être que les juges aussi ont eu une application, ça n'engage que moi, c'est mon interprétation, je ne juge pas autrement, mais moi, je trouve que peut-être qu'ils ont voulu aller un peu rapidement pour sortir de tout ce processus-là. Sinon, comme on l'a dit, c'est des gens qui pouvaient être condamnés avec sursis, ou bien condamnés après prendre un truc d'amnistie pour les amnistier, ou bien le président de la République lui-même, dans ses prérogatives, peut prendre toute autre décision pour les blanchir carrément. Donc, ça allait donner l'impression quand même que le droit a été dit, il y a eu justice, mais après, dans le cadre de la réconciliation et de l'esprit de la loi d'entente, voilà, on les a absous de toute charge.
Merci beaucoup.
Donc, ça allait être une meilleure procédure qui allait nous empêcher tous ces débats-là.
Merci, Ibrahim. Et ces craintes, surtout l'avenir et quant aux conséquences de cette décision. Maître Touré.
Oui, je vous entends.
Oui, sur les observations faites par les uns et les autres sur les conséquences de cette décision de justice. Et aussi, est-ce que pour vous, le débat est clos?
Non, le débat n'est pas clos, mais l'affaire est close sur le plan judiciaire. Comme on le dit, beaucoup de gens réclament justice à juste raison. Moi, je pense qu'à partir du moment où une affaire est jugée et qu'il y a une décision de justice qui tombe, on a en tout cas jugé l'affaire et il y a une justice qui a été rendue. Elle peut être comprise ou ne pas être comprise, et ça c'est une question, mais le débat reste ouvert, c'est ce qui fait que nous en parlons.
Mais est-ce que vous comprenez l'inquiétude exprimée par les uns et les autres, et comment faire en sorte que demain, d'autres personnes, peut-être pas dans le cas de Aya Sanogo, mais d'autres hommes politiques ou d'autres militaires, ne profitent pas de cette même largesse, d'après certains, qu'offre cette loi d'amnistie, et cette loi d'entente, pardon?
Ce qu'il faut faire, c'est simplement qu'on fasse attention aux lois qu'on vote dans la fabrique des lois, notamment à l'Assemblée nationale. Vous savez, nous sommes dans un système démocratique où nous n'avons pratiquement pas compris tous les enjeux de la représentativité, de la représentation. On confie les mandats souvent sans pour autant nous rendre compte de toute l'importance et de l'impact que cette délégation va pouvoir entraîner. Cette loi, lorsqu'elle a été votée, bon, les protestations étaient timides. C'était une affaire de sachant. Maintenant, ce n'est pas comme dans d'autres pays, en tout cas plus ou moins normaux, où le moindre changement envisagé au niveau législatif entraîne des levées de boucliers de part et d'autre ici.
Donc vous semblez dire que les Maliens n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes.
Bon, je ne dirais pas ça en termes, je dis simplement qu'il faut faire attention aux lois qu'on vote. C'est par exemple, on est dans un schéma pareil où on a un accord d'Alger, par exemple, qui a été signé dans des conditions difficiles. La mise en œuvre pose problème. Certains pensent qu'il faut le mettre en œuvre. Après, on va rectifier. Alors que d'autres pensent qu'il faut d'abord discuter de sa pertinence avant d'essayer de la mettre en œuvre. Donc, l'erreur qui a été commise, entre guillemets, dans le cadre de la loi d'entente nationale, nous sommes en train d'aller vers le même schéma pour l'accord issu du processus d'Alger. On prend les textes, on ne les mûrit pas suffisamment. On n'en débat pas beaucoup, on met en œuvre, c'est lorsqu'on a mis en œuvre qu'on s'est dit « Ah tiens, c'est ce qu'il y a dedans ». Donc il faut changer la donne en nous intéressant aux questions depuis leur conception, depuis le début.
Merci.
Pour pouvoir maintenant éviter les effets. Là, nous sommes en train de nous plaindre des conséquences, mais la cause causale même, c'est la fabrique des lois à l'Assemblée nationale.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Ben Mamate Touré, un des avocats du général Aya Sanogo. Merci à Ibrahim Koulibaly, directeur de publication de la Nouvelle Tribune. Merci à Mouriba Sissoko, juriste, point focal au Centre d'assistance pour la promotion des droits de l'homme à Kati, au Mali, et à Ismaël Fané, porte-parole du collectif des victimes des 21 bérets rouges. Merci à vous, messieurs, d'avoir participé à ce débat et à très bientôt. Au revoir.